Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Réseaux sociaux, levez-vous. Le mois de novembre a été difficile. Facebook a notamment été accusé d'avoir favorisé l'élection Donald Trump aux États-Unis en permettant à de fausses informations d'être diffusées en masse sur les murs de ses utilisateurs. Un article relatant le soutien totalement inventé du pape François au milliardaire a par exemple été partagé 868 000 fois sur Facebook, qui n'est d'ailleurs pas le seul réseau social incriminé. Twitter a aussi été accusé, cette fois en France, d'avoir participé à peu près au même moment à la défaite d'Alain Juppé en laissant prospérer des tweets le surnommant Ali Juppé en référence à une supposée mais fausse complaisance envers l'islam politique du candidat malheureux à la primaire de la droite. Des critiques tellement fortes, notamment pour Facebook, que le réseau social créé par Mark Zuckerberg a annoncé dans la foulée des mesures pour lutter contre la désinformation, a-t-il expliqué, après avoir, il est vrai, minimisé le problème. Alors faut-il pour autant parler de danger pour la démocratie quand les réseaux sociaux sont aussi un outil démocratique? Exemple, ce soir, ça se passe en ce moment même, le président du Burkina répond en direct aux questions de ses administrés, questions posées sur Twitter. C'est donc le débat de ce soir, bienvenue à vous. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Grégoire Lemarchand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'agence France Presse, l'AFP. Vous êtes adjoint à la rédaction en chef en charge des réseaux sociaux. Pour discuter avec vous, Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités spécialisé en réseaux sociaux numériques, sociologie du journalisme, webjournalisme et communication politique. Vous enseignez par ailleurs à l'IFP, l'Institut français de presse, et vous avez entre autres fondé l'Observatoire du webjournalisme. Alors Arnaud Mercier, on a un peu de recul maintenant. Le 8 novembre 2016, pour vous, la date de l'élection Donald Trump, est-ce que ça a été un tournant dans l'histoire de la presse et des réseaux sociaux que vous étudiez de près ?
Ben, en tout cas, ce n'est peut-être pas un tournant réel, mais c'est un tournant dans les mentalités, parce qu'un certain nombre de gens ont manifestement dû prendre conscience, à partir de l'élection de Donald Trump, que les réseaux sociaux avaient un rôle très important pour les citoyens, pour s'informer, et que effectivement, il se passait quelque chose de l'ordre de la substitution partielle de médias entre les médias d'information patentés comme RFI aujourd'hui où nous sommes et quelque chose qui est de l'ordre du système parallèle que sont les réseaux sociaux numériques. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent que finalement la première entrée dans l'information c'est d'abord ce qui se passe sur ces comptes Twitter, Facebook ou autres, Snapchat maintenant qui monte chez les jeunes.
Alors
notamment,
on peut peut-être donner un chiffre pour les auditeurs pour qu'ils se rendent compte. Aux États-Unis, 40% des gens disent s'informer sur Facebook, donc ils le considèrent comme un média en fait aujourd'hui.
Alors c'est sans doute un problème sur lequel on reviendra justement, puisque Zuckerberg dit non, nous on n'est pas un média, mais de fait les gens l'utilisent comme un média, donc ça pose la question de la responsabilité sociale de Facebook, on y reviendra. Donc effectivement, à mon avis c'est pas totalement un tournant au sens où il y avait déjà des critiques qui étaient exprimées sur le rôle que pouvaient avoir les réseaux sociaux, mais de fait la victoire de Donald Trump, à la fois qui n'était pas bien vu par un certain nombre de gens, bien anticipé.
On en a parlé des sondages.
Absolument. Et en même temps, qui était évidemment pour un certain nombre de gens très informés, très cultivés, qui n'était pas souhaité. Les deux réunis fait que un certain nombre de gens se sont dit là vraiment il faut faire quelque chose. D'où d'ailleurs tout un climat d'opinion, de protestation, de mouvements divers et variés, de tribunes, d'universitaires, de journalistes, d'hommes politiques. Et qui fait qu'on en débat ce soir.
Alors Grégoire Lemarchand, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Arnaud Mercier ? Pas franchement un tournant, mais plutôt un tournant dans la prise de conscience. Est-ce que pour vous, dans votre travail qui scrutez les réseaux sociaux, les utilisez pour informer, ça a été aussi une sorte de tournant ?
Oui, c'est assurément un tournant, c'est même une grosse claque en fait. On a vu les choses venir, il y a eu le Brexit quelques mois auparavant, mais là on est dans une dimension, voilà, c'est c'est la première puissance du monde, etc. C'est une démocratie, et pour la première fois le quatrième pouvoir, est complètement laissé de côté, et on voit dans un écosystème, qui est complètement exogène, qui est complètement extérieur aux médias, les mainstream, aux médias en général, où les gens ont peuvent se faire une opinion, peuvent, j'allais dire, s'informer pendant des mois et des semaines sans jamais, j'allais dire, lire un site de presse au sens le plus classique du terme, et que ça a une vraie influence. Et pour la première fois, on voit justement quelque chose aussi fort qu'une élection présidentielle américaine qui se joue en partie, parce qu'effectivement il n'y a pas que ça, il ne faut pas tout réduire à Facebook, mais qui se joue en partie pas à la télé, pas dans les journaux, mais sur les réseaux sociaux.
Et alors, est-ce que concrètement dans votre travail d'agencier, hein, c'est le jargon qu'on utilise pour les journalistes de l'agence France Presse comme d'autres, hein, il y a AP par exemple, est-ce que ça veut dire que vous avez traité en écrivant des dépêches qui sont consultables par les autres journaux de toutes ces fausses informations, en enquêtant sur ces fausses informations, en les quantifiant? Est-ce que ça fait partie maintenant aussi, finalement, du terrain?
C'est une vaste question. C'est une question qui est effectivement pas simple d'y répondre, parce que les gens nous disent effectivement, ça serait bien, notamment les médias en général, mais quelque chose comme l'AFP, où on a une force de frappe assez conséquente par notre réseau, plus de 1500 journalistes, tout un tas de cultures et de langues différentes, de dire, quand il y a une fausse nouvelle, une fameuse fake news, un hoax qui se répand, ça serait bien de le démentir. Mais à partir de quel moment on doit démentir? À partir de quel moment on estime qu'il a été partagé? À partir de quel moment c'est utile de le démentir et au contraire de pas lui donner, j'allais dire, de le mettre en lumière? J'avais lu récemment un billet de quelqu'un du Washington Post, c'était intéressant, qui chaque semaine faisait une rubrique sur le Washington Post en disant voilà quelles étaient les rumeurs cette semaine et je les démonte une à une. Et la personne a arrêté. Parce que disait finalement, les gens qui croyaient à ces rumeurs-là étaient encore plus convaincus parce que nous, Washington Post, médias mainstream, les démentions, donc ça veut dire que c'était vrai. Donc, vous comprenez, la réponse est vraiment pas simple.
C'est le problème classique des rumeurs. Hein. C'est vrai pour les hommes politiques, par exemple. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler à démentir la rumeur, d'abord vous la rendez visible aux yeux et aux oreilles de certains qui ne la connaissaient pas. Donc vous lui assurez de la publicité, et de toute façon vous ne convaincrez pas ceux qui sont qui veulent y croire, parce qu'ils veulent y croire d'abord. C'est-à-dire, c'est ça l'idée, hein, c'est que c'est pas que tout d'un coup ils disent ah bon machin, c'est en fait ils ont un état d'esprit, une idéologie, une adhésion partisane, philosophique, qui font qu'ils ont envie d'y croire. Et le fait de la démentir, effectivement, ça peut, comme c'est démenti par des personnes qui participent au système, hein, avec un grand S, eh bien, ça prouve au contraire qu'ils ont des choses qu'ils veulent le cacher, qu'ils veulent. Donc, effectivement, c'est pas simple du tout.
Alors, c'est pas simple, mais la question, c'est aussi est-ce qu'il faut le faire, puisque donc je le disais dans l'introduction, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, a annoncé des mesures phares pour lutter contre la désinformation. Alors, pour expliquer aux auditeurs, pendant quelques jours, il a dit non, nous n'avons pas de responsabilité. Finalement, il a quand même changé d'avis. Alors, pour donner deux mesures phares, faciliter le signalement des fausses informations par les utilisateurs, associer aussi des réseaux de fact-checkers, ces gens qui font ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais par exemple pas de filtre des fausses informations. C'est-à-dire que Facebook, Arnaud Mercier, a décidé de ne pas être, alors comment est-ce qu'on peut dire, de pas être censeur soi-même?
Ben oui, bien sûr. Ils ne veulent pas assumer ce rôle, d'abord parce que leur modèle économique en dépend, puisque plus ça circule, plus il y a de gens, plus il y a de... Donc, d'ailleurs, une partie des fake news ont été sciemment créées, on le sait, en Slovénie, par exemple, par des jeunes...
Pour des raisons totalement commerciales, pas forcément idéologiques,
parce qu'ils y plaçaient de la publicité et que ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses. Enfin, donc, il y a aussi toute une économie qui est derrière tout ça. Hein. C'est pas seulement la théorie du complot ou je ne sais quoi. Il y a des comportements, j'allais dire, opportunistes et prédateurs, hein, qui sont prêts à travailler sur les failles, quelque part, du système. Alors, c'est vrai que la position de Zuckerberg est intenable, à mon sens. Parce que la position de Zuckerberg est de dire, voilà, nous contentons de faciliter la conversation sociale entre des gens qui se connaissent, qui sont amis au sens Facebook. Hein. Voilà. Et puis, effectivement, grâce à notre algorithme, on facilite la remontée d'un certain nombre d'infos qui sont censées être intéresser les gens, vu leur profil, vu ce que leurs amis partagent. Enfin, il y a une grande opacité derrière exactement tous les critères de
oui, parce que l'algorithme, on ne sait pas du tout comment il fonctionne. Bah non, c'est un peu la formule du Coca-Cola.
Hein, c'est absolument, totalement secret. Parce que c'est un modèle économique, une fois de plus, en dépend. Donc, on ne sait pas trop, mais Zuckerberg fait fin de croire que du coup, bah, les gens, bah, ils partagent et nous, on fait que faciliter. Or, la vérité, d'un point de vue démocratique, c'est qu'effectivement, les gens utilisent notamment Facebook hein, comme une source première d'information. De plus en plus de gens disent, bah oui, c'est très important pour moi de Facebook, etc. Donc, du coup, on a une vraie difficulté parce que effectivement, Facebook, s'il ne se considère pas comme un média, est considéré comme un média par une bonne partie de ses utilisateurs. Donc, la question devient, quel principe de régulation déontologique on peut appliquer à Facebook qui se réclame comme n'étant pas un média, mais qui est pourtant utilisé comme média.
Alors Grégoire Lemarchand, est-ce que vous avez un début de réponse?
Non, mais j'abonde dans le sens d'Anno Mercier. Il y a une forme d'immaturité chez Facebook. C'est effectivement de ne pas accepter la réalité, de ne pas accepter ce qu'est devenu Facebook, qui est considéré effectivement comme par beaucoup d'utilisateurs comme un média. Alors effectivement, les dirigeants de Facebook se réfugient derrière effectivement l'algorithme. Nous, on est une plateforme. Mais c'est il faut pas se cacher, on peut pas se vanter d'avoir 1 milliard et je sais pas combien d'utilisateurs, d'avoir une influence aujourd'hui jusqu'au choix des électeurs, etc. On peut pas se cacher derrière son petit doigt et dire non, nous c'est l'algorithme. Alors c'est vrai qu'il commence et vous en parliez Anne.
Surtout qu'apparemment des employés en fait de Facebook, c'est des informations qui ont fuité un petit peu, c'est évidemment pas officiel, auraient posé le problème. Il y a déjà plusieurs mois en disant attention, il faut peut-être quand même qu'on s'engage.
Mais ce qui est profondément gênant, par exemple, dans l'idée de par exemple d'avoir un signal et de dire les fact-checkers vont vous dire c'est que si c'est vrai ou si c'est faux, c'est que j'allais dire Facebook laisse ça à des tiers, ce qui me semble très bien, mais ne les finance absolument pas. Donc grosso modo, c'est à des rédactions dont le quotidien est quand même pas facile financièrement. Les médias sont en crise depuis des années et des années, en particulier ces dernières années. Et grosso modo, c'est à nous de faire c'est aux médias, aux journalistes de faire le boulot que Facebook ne veut pas faire, ou en tout cas, si tant est que ce soit pas son rôle, en tout cas ne veut pas financer. Et je trouve que c'est un petit peu gênant toujours de laisser, c'est-à-dire qu'on prend les contenus, Facebook prend tous les contenus des médias et les médias n'y trouvent pas forcément leur compte. Et encore, il faudrait remettre au pot pour démonter tous les hoaxes un par un. Voilà, moi je pense que le problème il est là. C'est vraiment c'est vraiment une forme d'immaturité de la part de Facebook.
On peut ajouter aussi qu'il y a une part d'hypocrisie, hein, parce que quand il vous dit ce que l'on va mettre en place, c'est un petit indicateur de type alerte, point d'exclamation, attention, ça, c'est un contenu qui pourrait être vrai ou faux, enfin en tout cas qui est soumis à controverse. C'est quand même d'une hypocrisie sans nom, puisque
Vous dites qu'il faudrait que Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux filtrent des contenus.
Alors, il faut dire une chose. J'ai dit d'abord Facebook et c'est son modèle économique, donc il a aucun intérêt de s'auto-censurer, c'est une évidence. Mais il y a aussi le fait que n'oublions jamais que c'est la conception de la liberté d'expression américaine qui est dans le modèle mental, dans le schéma culturel.
Si Facebook était domicilié en France, ce serait pas la même chose.
Ah ben non, bien sûr, parce que par exemple, nous on a des lois qui nous permettent de dire que l'antisémitisme c'est pas une opinion, c'est un délit, que le révisionnisme historique c'est pas... Alors après on peut contester aussi, hein. il y a justement des gens qui contestent ces lois françaises, ces lois mémorielles par exemple, des choses comme ça, mais il n'empêche que voilà. Et donc Twitter a eu le même problème. À un moment il y avait eu un concours de blagues toutes plus mauvaises les unes que les autres, qui était avec le hashtag un bon juif, c'était en 2012. Alors un bon juif, c'est un juif mort, c'est un juif cuit, c'est un juif cuit, enfin etc. Des trucs enfin c'était horrible quoi. Et une association d'étudiants juifs a porté plainte et il a fallu, mais vraiment, que la justice française s'en mêle et même l'État français pour que Twitter commence à ouvrir un peu les écoutilles et se dire ah oui, effectivement, peut-être qu'on encourage l'antisémitisme, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc la responsabilité sociale et morale des réseaux sociaux, elle est déjà en jeu depuis déjà un petit moment et ils sont très hypocrites sur ces questions.
Grégoire Lemarchand, vous disiez tout à l'heure, finalement, faire appel de manière indirecte et surtout sans les financer à des médias, c'est un peu lâche, c'est un peu immature, c'est l'adjectif que vous utilisiez. Est-ce que vous diriez finalement, Facebook est un média, donc Facebook devrait avoir un rédacteur en chef? Est-ce que vous diriez jusque-là, ce sont des propositions qu'on lit ça et là?
Non, je crois pas. Je crois que, j'allais dire, ils se réfugient toujours derrière leur histoire. Nous sommes une plateforme, pas un média. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt, ni Twitter, ni Facebook, à devenir des médias. Mais en revanche, de travailler main dans la main avec les médias, oui, ça, ils ont intérêt à le faire. Et au-delà d'un partenariat, j'allais dire, comme on peut y avoir aujourd'hui, voilà, financier sur de la publicité, etc., sur de l'exposition de contenu, mais vraiment, voilà, sur des choses comme ça. Et moi, je pense que Facebook, par exemple, a la puissance des développeurs, voilà, de son algorithme, etc., pour, j'allais dire, pour faire beaucoup mieux, en tout cas, sur le fameux newsfeed qui nous donne... qui donne le ton aux gens et de dire, par exemple, il y avait cet exemple-là, que le Denver Post, qu'un journal américain reconnu existe, mais que le Denver Guardian, qui avait été créé toute pièce pour monter des fakes, n'existe, enfin voilà, était créé depuis 3 semaines ou quelque chose comme ça. Donc là, sans même faire appel à des fact-checkers ou je sais pas quoi, on peut imaginer que l'algorithme...
Donc finalement, sur améliorer ce genre de contenu, l'algorithme, voilà, ça, ce serait déjà une première piste efficace.
Attention, ce site qui se prétend être voilà un site de presse a été créé il y a 3 semaines. C'est des choses comme ça. C'est un exemple parmi d'autres. C'est à eux d'avoir une vraie volonté. Mais est-ce que, j'allais dire, avoir plus de diversité, permettre d'avoir peut-être un newsfeed où les gens ont un peu plus la tête froide, soient moins dans l'hystérie, soient moins dans l'émotion, est-ce que ça, c'est compatible avec tout l'écosystème qui est de Facebook, qui est sur l'émotion, qui est sur le like, qui est, on dit les choses tout de suite comme on le pense. Voilà, est-ce qu'il s'y retrouve ? Je ne suis pas certain.
Non. Mais alors, d'ailleurs, toujours pareil. Moi, je pense vraiment, ce qui me déroute le plus, c'est le niveau d'hypocrisie de Facebook globalement. Parce que, d'abord, ils ont des politiques de censure sur les questions de sexualité, de nudité, y compris jusqu'à l'absurde, puisqu'on a, par exemple,
la petite fille
brûlée au napalm au Vietnam, qui est devenue une espèce d'icône de la guerre du Vietnam et des dégâts qu'elle fait sur les populations civiles, avait été dans un premier temps censuré à cause de la nudité, enfin des choses absolument absurdes sur lesquelles ils ont dû évoluer, donc ils le font. Et puis je peux vous assurer que mettez en place une campagne sur Facebook en disant que Mark Zuckerberg est pédophile, je vous assure que vous verrez que Facebook s'en occupe. C'est-à-dire qu'ils savent le faire de temps en temps, hein, quand ils ont envie vraiment de le faire. Donc là, je crois que la vraie question, elle n'est pas est-ce qu'ils peuvent ou pas le faire, c'est est-ce qu'ils ont envie de le faire, est-ce que ça met en cause leur modèle économique, c'est ça le vrai enjeu.
Au-delà du lien entre Facebook et les fact-checkers, si on prend les fact-checkers qui travaillent pour des rédactions, alors ça existe pour plusieurs journaux français, à RFI on le fait aussi, des chaînes de télévision, est-ce que des intox, est-ce que les décodeurs du Monde, finalement ça s'adresse, ça parle à ceux qui ont besoin d'être désintoxiqués, Arnaud Mercier ?
Ben non, justement, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux ne sont pas conformes à une espèce d'idéal démocratique angélique qu'on a bien voulu nous vendre au départ. Il y a de tout sur les réseaux sociaux, y compris des gens qui l'utilisent comme une sorte de contre-espace public dans lequel ils voient que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, leurs idées les plus racistes, homophobes, xénophobes et tout ce qu'on veut, n'ont pas pignon sur rue dans les médias traditionnels. Et du coup, ils utilisent les réseaux sociaux comme un espace alternatif pour avoir un petit public et pour pouvoir dire toutes les horreurs dont ils savent très bien que les journalistes ne relayeront pas. Et le fait qu'il y ait du fact-checking, ça les intéresse pas, ils s'en moquent éperdument, puisque de toute façon, justement, s'ils s'expriment comme ça, c'est bien parce qu'ils ne trouvent pas à s'exprimer dans les médias classiques.
Alors, Le Marchand, vous les regardez comment, vous, ces expériences de fact-checking ?
Ben, le travail qui est fait, vous citiez des exemples extrêmement pertinents, très bons. Moi, je pense que même au-delà du fact-checking, parce que là, on fait le procès de Facebook depuis tout à l'heure. C'est aussi, voilà, aux journalistes, et c'est tout un autre débat à faire, mais en tout cas, au moins, ils l'ont déjà fait, mais aux médias, aux journalistes, de s'adapter encore plus aux plateformes. Que ça soit à Twitter ou Facebook, de réfléchir, j'ai pas de solution, hein, comme ça immédiate, mais de réfléchir à des formats justement pour toucher ces gens qu'on n'arrive plus à toucher. Ces gens dont je disais tout à l'heure, finalement vous pouvez toujours déhoxer. De toute façon, on vous croira jamais parce que vous êtes les systèmes, vous êtes les médias, etc. Les médias dominants. Il faut réfléchir à des nouveaux formats, des nouvelles façons de parler.
Eh bien, on verra, ça fera peut-être l'occasion. Ce sera l'occasion pour un prochain débat, peut-être à la fin de l'année 2017. Qui sait, on aura peut-être avancé.
Peut-être que, par exemple, Snapchat avec les jeunes peut représenter ça.
Eh bien, on va rester là-dessus. Merci beaucoup à vous deux, Arnaud Mercier et Grégoire Lemarchand, journaliste à l'AFP. Arnaud Mercier, professeur spécialisé en réseaux sociaux numériques. Je rappelle que vous enseignez à l'Institut français de presse. Merci également à Florence Ponce, à Sigrid Azerwal et à Hélène Avril. On se retrouve demain.